À voix nue. Cette semaine, Amandine Casadamon rencontre Philippe Bouvard. Ce soir, à l'origine du journalisme People. Hier, nous avons tenté de comprendre d'où Philippe Bouvard tient-il sa force de travail et ses talents de journaliste. Une œuvre journalistique prolifique et populaire, plus de 60 ans de production où il a sillonné son époque à travers différents médias, comme Le Figaro, France Soir, Paris Match, Nice Matin, Antenne 2, France 2 aujourd'hui, La 5, TF1, RTL pour ne citer que les principaux. Aujourd'hui, nous nous intéressons au Philippe Bouvard mondain qui a côtoyé de près et de loin un très grand nombre de personnalités et de célébrités. D'ailleurs, vous intéresser au people, comme on dit aujourd'hui, a été l'une de vos premières activités de journaliste en écrivant pour la rubrique mondaine du Figaro dès 1953 pour devenir chef de rubrique des très huppées pages parisiennes du même journal. Vous êtes aussi le précurseur des émissions People lorsque vous animez RTL Non-Stop, dès 1967, émission de radio présentée comme le plus grand music-hall de France. D'ailleurs, ce programme marche tellement bien que vous le déclinez pour la télévision sous le nom de Samedi Soir, que vous présentiez dans les salons du célèbre restaurant parisien Maxim's, avec une mise en scène particulièrement soignée et intimiste, où vous jouez des décors. Tantôt, on vous retrouve avec vos invités autour d'un verre et de la table, comme si nous partagions avec vous une fin de dîner, en quelque sorte. Tantôt, vous êtes confortablement installé sur les banquettes, dos à dos avec un public détendu et pas moins attentif. Vous changez aussi d'espace en trouvant des dispositifs d'entretien. Alors, j'ai en tête notamment ce que vous aviez fait avec Michel Audiard pour son entretien, où vous lui avez demandé de se lever de table et d'aller s'asseoir sur un fauteuil de coiffeur, où vous vous êtes assis à côté de lui sur un petit tabouret et à l'aide d'une pédale et de votre pied, vous montiez le fauteuil de Michel Audiard qui s'est retrouvé beaucoup plus haut que vous et vous avez fait l'entretien, vous, beaucoup plus bas, assis et lui presque comme un dieu. Voilà, bonsoir Philippe Bouvard.
Bonsoir.
D'où vous est venu ce sens de la mise en scène ?
Oh, il a été presque obligatoire quand je suis passé du son tout seul au son avec image. Il fallait quand même que l'œil y trouve sa satisfaction. Alors, vous remarquerez quand même qu'il y a une constante, que j'aimais bien les sièges qui abaissaient ou qui montaient plus haut mes invités, que ce soit Zitrone avec un siège de dentiste ou Audiard qui méritait d'être le plus haut d'ailleurs, parce que ça a été mon grand copain et en même temps mon maître.
Et qu'est-ce que cela permet de trouver des dispositifs d'interview comme ça par rapport à la parole que vous pouvez obtenir de vos invités ?
On gomme les bagatelles habituelles de la porte. On se connaissait généralement pas avant, on se revoit pas après, mais pendant on est plus proche. Et je pose des questions que j'oserais pas poser autrement ou que je poserais sur un autre ton. Et ils me répondent alors que autrement pas pris dans cet univers fantaisiste momentané que j'ai créé, il ne répondrait pas.
Et d'ailleurs, vous faisiez aussi des assemblages, des compositions d'invités un petit peu hors du commun. On pouvait avoir un repris de justice avec
Le postulat, c'est de faire se rencontrer des gens dont j'ai la faiblesse ou l'orgueil de penser que sans moi, ils se seraient jamais retrouvés côte à côte. Quand je mets côte à côte Coluche et Salvador Dali, je sais ce que je fais. Je suis un peu aussi comme le photographe de famille, sauf que j'ai pas de voile noir sur la tête et j'assigne à chacun sa place et avant d'appuyer sur le bouton qui fait pas une photo mais qui fait beaucoup plus.
Et c'était pas trop difficile d'avoir des confessions de la gente masculine parce qu'à l'époque c'était pas très courant que les hommes se livrent comme ça à la télévision.
C'était pas très courant, mais d'un autre côté, c'était pas très difficile puisque on n'était pas encore entré dans une ère chronique d'indiscrétion et de questions sur la vie privée. Alors d'abord, ils se méfiaient pas. Ensuite, si je posais, mais bon, avec quand même beaucoup de prudence et de retenue, une telle question, il répondait parce qu'il disait, bon, ben, c'est peut-être aujourd'hui à la mode, et puis il n'y voyait pas malice, hein. Non, non, c'était finalement très facile. Beaucoup plus facile de faire parler quelqu'un il y a 50 ans qu'aujourd'hui.
Est-ce qu'aujourd'hui, les gens seraient pas un peu plus dans le contrôle de la parole?
Non, mais attendez, aujourd'hui, ils ont tellement été pris à des pièges qui étaient pas toujours très sympathiques, ils se méfient et ils ont raison. Et moi-même, le premier, quand on veut bien s'intéresser à mon maigre destin, comme je dis, je m'y reprends à deux fois avant d'aller dans les confidences.
Philippe Bouvard, diriez-vous que la provocation puisse amener des réponses plus sincères?
Oui, sûrement. Sûrement, parce que si on laisse les gens dire ce qu'ils sont venus dire, ce qui est évidemment la première motivation de leur présence, parce qu'ils ont quelque chose à vendre et que la télé est une merveilleuse vitrine, on va pas très loin. On va pas très loin et on ne satisfait pas la curiosité du plus grand nombre. En revanche, si on accepte de diverger, et si l'interlocuteur l'accepte, parce que vous en avez qui répondent pas, ou qui répondent à côté, ou qui disent quelque chose sans intérêt, on sait jamais ce qui va se passer dans une interview, hein. C'est quand même une partition à deux voix.
On parlait de dispositif tout à l'heure. Il y a une autre émission qui était très novatrice. C'était Passez donc me voir, qui a débuté en 1979. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le dispositif ?
Ah, Passez donc me voir, c'est un bon souvenir, au moins pour moi. Alors toujours dans la quête de la conversation la plus naturelle et si possible la plus intéressante possible, j'avais fait reconstituer minutieusement un café de Paris avec un vrai zinc, un vrai percolateur. J'avais installé un barman qui pesait 120 kilos, réfugié politique roumain, truculent et qui tenait très bien son rôle. Et puis, j'avais fait dissimuler par le décorateur toutes les caméras et tous les micros. C'est-à-dire qu'au bout de très peu de temps, de quelques secondes, sinon de quelques minutes, mes invités oubliaient totalement qu'ils étaient à la télé. Et nous avions exactement la conversation qu'on aurait pu avoir dans un bistrot hors télé.
Et d'ailleurs, je me demandais, Philippe Bouvard, qui vous a placé devant la caméra ?
Bah, écoutez, il y a toujours des enchaînements. Il y avait à l'époque, parce que je sais pas aujourd'hui comment tout ça fonctionne, ça doit être différent. Je veux dire que j'avais une page entière, la dernière dans le Figaro tous les jours, que je remplaçais en dictant ce que me rapportaient 14 collaborateurs. C'était un boulot de dingue, mais très amusant. Et évidemment, bon, ça faisait parler parce que c'était plein de choses amusantes ou de découvertes. Et du coup, ça avait donné l'idée de me faire travailler aussi à la radio. Et comme à la radio, ça marchait pas mal, ça avait donné l'idée de me faire travailler à la télé. Voilà. Bon, j'ai été multimédia parce qu'aujourd'hui, c'est normal quand ça marche.
D'ailleurs, quel est le trait de différenciation majeur pour vous entre la radio et la télévision ?
Il n'y en a pas tellement, sinon que on est obligé de soigner la mise en scène à la télé et que à la radio on a souvent un ton plus vrai parce que les gens ne se soucient pas de leur nœud de cravate parce que les voix sont presque plus pures qu'à la télé. C'est pour ça que la radio reste mon support privilégié.
Vous l'écoutez beaucoup, la radio, encore aujourd'hui, Philippe Bouvard ?
Écoutez, quand il se passe des choses dans le monde ou en France, et malheureusement, c'est en ce moment le cas, au moins toutes les heures. Parfois toutes les demi-heures.
C'est presque une addiction.
Oui, non, mais c'est quelque chose de maladif, hein. Mais cette peur d'être coupé du monde, cette peur de ne pas savoir ce qui se passe, cette peur de ne plus être journaliste, eh bien, je l'assouvis avec le fait d'être scotché à mon poste de radio et. Lorsqu'il y a des événements importants à la télé qui montrent des images dont je me dis d'ailleurs qu'elles ne contribuent pas à apaiser les esprits.
D'ailleurs, il y a une émission, c'est l'huile sur le feu, qui était une émission de débat assez novatrice. Vous
Oui,
pouvez nous en
alors.
parler? C'était presque un catch, en fait, entre deux invités.
Oui, alors. Je crois que ça a été une des premières émissions de débat, parce que à l'époque j'avais remarqué que de temps en temps il y avait peu de talk-shows, pas du tout, mais dans une confrontation qui était organisée par les journaux télévisés ou radiophoniques, on opposait des gens que tous séparaient, qui n'avaient pas sur les sujets essentiels la même approche. Et je m'étais dit que c'était un peu dispersé et que parfois on n'opposait pas des boxeurs qui étaient dans la même catégorie. Donc j'ai essayé d'avoir des têtes d'affiche sur des sujets qui étaient extrêmement polémiques. Il n'y avait pas besoin d'ailleurs de verser beaucoup d'huile, hein, le feu prenait très vite et il disait des choses épouvantables et parfois j'étais obligé de les séparer et oh, souvent ils se quittaient en meilleurs termes.
Vous voulez dire qu'ils pouvaient se battre?
Oui, ils
Ah oui,
pouvaient se
c'est
battre.
arrivé.
Ils se pouvaient se battre. J'ai le souvenir d'un pugilat, un vrai pugilat, entre François Chalais et Jean-Eder Nallier. Et j'avais été obligé de m'interposer parce que ça dégénérait avec des coups de poing. Ben, aujourd'hui, on a un Premier ministre boxeur, alors.
Puis les gens se tiennent davantage aujourd'hui. Peut-être ils étaient moins habitués à être confrontés comme ça en public et...
Oui. Je pense qu'il y a quand même entre les politiques, enfin il y avait, parce qu'il y a des nouveaux politiques, une complicité qui s'arrête quand ils repassent la porte de la buvette de l'Assemblée nationale, mais quand même qui existe. Ils sont de la même famille, parfois ils sont du même bord, lorsqu'il y en a un qui est passé de la gauche à la droite ou vice-versa. Non, 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 c'était très différent et ça allait très loin et ça marchait très bien parce que on disait sur des sujets graves des choses terribles, terribles qu'on n'avait jamais dites jusque-là.
Et les gens, le public votait à la fin de l'émission pour élire le vainqueur. Notamment, je me souviens de l'huile sur le feu avec Paul Ricard des boissons anisées,
Oui.
qui était opposé à un médecin psychiatre. Et puis Paul Ricard hurlait et sortait des documents pour prouver que l'alcool n'était pas mauvais.
J'avais pas invité d'ailleurs Paul Ricard parce que c'était un grand patron et qui avait fait fortune dans l'alcoolisme, il faut bien le dire. Mais parce que c'était un méridional qui avait des idées sur tout et profondément originales. Et qui n'avait qu'une ambition, c'est de devenir président de la République.
Ah oui, et vous
Oui.
l'avez confié?
Oh, je crois que 30 ans plus tard, il serait parvenu.
Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont marqué votre existence, Philippe Bouvard?
Oui. Toute mon existence est jalonnée de rencontres. Mais d'ailleurs, je pense que c'est vrai pour tous les gens qui font des carrières publiques et même pour les vies privées. Je veux dire, on n'est rien seul. On est quelqu'un, on commence à être quelqu'un quand on va vers les autres ou que les autres viennent vers vous. Et comme j'avais de bonnes informations, un petit flair, et le moyen d'avoir en face de moi les interlocuteurs que je souhaitais, Je peux dire que pendant des décennies, j'ai eu les meilleurs, les plus extraordinaires, et parfois ceux qui ne parlaient qu'à moi. Si vous voulez, ça avait commencé avec la rencontre d'un homme qui s'appelait François André. C'était un paysan un petit paysan qui avait 1,90 m, une très belle stature, une très belle tête, une intelligence très subtile, et qui, lassé de faire rimer Dèche et Ardèche, son département d'origine, était venu à Paris où il était devenu ordonnateur de pompes funèbres. Et sa fortune avait commencé lorsqu'il avait remarqué que, après une inhumation, la famille avait soif et qu'il y avait à la sortie du cimetière des bistrots qui se disputaient leur clientèle. Alors il avait passé un contrat, dont j'ose pas dire qu'il était moral, avec un de ces bistroquets, et il amenait d'autorité la famille endeuillée jusqu'aux zingues, et ensuite il touchait sa commission. Et puis il était devenu peu à peu l'empereur du tourisme français. C'est lui qui a créé les stations de Deauville, de Cannes, de Juan-les-Pins, de La Baule, du Touquet. Enfin, il avait 25 casinos, 40 restaurants, une douzaine de palaces. C'est devenu le groupe Barrière aujourd'hui.
Et comment l'avez-vous rencontré, ce monsieur, Philippe
Ben, je l'ai
Bouvard?
rencontré parce que ça m'avait intrigué. Il était déjà très connu, hein, ce n'est pas moi qui l'ai révélé. Et puis, bon, j'avais posé des questions qui l'avaient amusé. Il m'avait pris à la bonne, comme on dit. Et par la suite, c'est moi qui étais son interlocuteur habituel.
Et est-ce que d'ailleurs le mondain a changé? Est-ce qu'il y a une différence entre le mondain, la célébrité d'avant et la célébrité et le mondain d'aujourd'hui?
Écoutez, j'ai jamais été mondain. J'ai été affecté à la rubrique mondaine, mais je me sentais pas du tout à l'aise avec ce qu'on appelait le monde, le beau monde. D'abord, la tenue de soirée m'allait très mal.
Pourquoi?
Alors, c'était non seulement le smoking, mais aussi l'habit. Or, je me souviens d'un jour où je devais assurer le reportage d'un grand dîner officiel à l'Élysée. Je m'étais présenté en habit, et au lieu de me guider vers la porte des invités, on m'avait envoyé vers la cuisine parce qu'on m'avait pris pour un extra.
Pierre Brisson, qui était le directeur du Figaro, vous avait dit un jour, si vous voulez vous faire connaître, attaquez-vous à des gens plus connus que vous,
Ah
Philippe
oui, ah
Bouvard.
oui, ça c'était mon credo. Alors, bon, c'était un homme qui était remarquable et qui surveillait jalousement l'éthique de son journal et de ses collaborateurs. Mais ça déjà, c'était à la limite de la provocation. Mais je l'ai écouté et j'ai bien fait. Et c'est pour ça que, bon, je me suis mis à dos pendant des années des gens épatants, talentueux, comme Brigitte Bardot ou Mireille Mathieu, ou Lynn Renault, c'était mes têtes de Turc. Bon, il fallait des têtes de Turc. Et ça a réussi d'ailleurs. Ça a réussi, sauf que j'ai dû me forcer parce que souvent, j'avais une certaine estime pour les gens que j'épinglais quotidiennement. Parce que quand j'avais une tête de Turc, je m'en servais, hein. Je devais même parfois leur prêter des propos qu'ils n'avaient pas tenus. C'était pas très glorieux, hein. D'ailleurs, le petit journalisme tel que je l'ai pratiqué était à la fois un journalisme d'une certaine tenue, ne serait-ce que par l'habillement, mais c'était parfois de bas étage, hein.
Mais pourquoi s'acharner sur elle? Qu'est-ce qu'elle vous avait fait? Qu'est-ce qui vous énervait chez ces
Alors,
femmes?
c'était des gens un peu choisis au hasard, surtout des femmes d'ailleurs, parce que la misogynie était très à la mode à l'époque. Alors, tantôt, je les choisissais parce qu'elles étaient incapables de répondre, tantôt parce qu'elles répondaient à côté, tantôt parce qu'elles répondaient avec beaucoup d'esprit, tantôt uniquement parce qu'elles m'agaçaient ou parce que elles étaient très populaires et que je savais que je profiterais à la longue de cette popularité.
Pour l'audience aussi, est-ce qu'on parlait d'audience à l'époque,
Non,
des chiffres? Non, c'est
non.
arrivé quand ça d'ailleurs?
Alors, on a commencé à parler d'audience à la télévision quand j'ai fait le théâtre de Bouvard, parce que là, on a atteint des sommets. J'avais plus de 60%, mais enfin, il y avait très peu de chaînes et l'audience ne s'était pas encore fragmentée comme celle d'aujourd'hui. Et puis plus tard, quand j'ai fait les grosses têtes sur TF1 et que on a culminé à 13 millions et demi de téléspectateurs, là, on se gargarisait avec les audiences. Mais c'était à la fois nouveau et puis sans que personne puisse expliquer comment on arrivait à ces chiffres. D'ailleurs, aujourd'hui, on comprend à peine.
Et est-ce que ça a changé le contenu de vos programmes, l'audience?
Non, ça changeait pas le contenu, ça changeait parfois les rapports avec les employeurs.
Avez-vous peur de la rumeur, Philippe Bouvard?
Oui, j'ai peur de la rumeur, parce que on peut accréditer n'importe quel. Mais d'ailleurs, on voit bien avec la théorie du complot aujourd'hui que on peut faire croire à des milliers de braves gens qui sont pas du tout demeurés, mais sceptiques, que les Américains n'ont jamais débarqué sur la Lune, ou que c'est Monsieur Macron qui a organisé l'attentat de Strasbourg pour se débarrasser des gilets jaunes, hein. Alors là, les médias ont une grosse responsabilité, sauf que il y a encore quelques années, quand Internet et les réseaux sociaux n'existaient pas, la rumeur, elle pouvait naître, mais elle mourait aussitôt.
Vous avez été victime, vous, de la rumeur, Philippe Bouvard?
Oh, ben des petites rumeurs comme on en colportait sur tous les gens qui commençaient à être un peu connus, oui. Alors, j'étais vénal, ben, je me laissais acheter par exemple par les directeurs de théâtre lorsque je rendais compte d'un spectacle. J'étais homosexuel à l'époque où c'était pas aussi bien vu qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je... Oh non, ça allait pas très loin, mais c'était pas très agréable, hein. C'était quelquefois difficile à démentir. Oui, mais tout le monde disait plus ou moins du mal de tout le monde. Mais on n'allait pas en justice, hein, pour ça, parce que c'était pas à la mode, hein. Alors parfois il y avait des duels, les derniers duels auxquels j'ai assisté. Je me souviens d'un duel entre Serge Liffard et le marquis de Cuevas, qui était arbitré par Jean-Marie Le Pen. Alors on s'était rendu sur le pré de très bonne heure le matin, et c'était un duel à l'épée. Alors il s'arrêtait au premier sang. Enfin, ça n'avait pas été très loin. Non, mais c'est pour vous dire qu'on avait un sens de l'honneur qui ne passait pas obligatoirement par les prétoires. On réglait ses affaires soi-même. On giflait. Moi-même, j'ai été giflé. J'ai été giflé parce que
Par qui?
j'avais reproduit dans ma chronique du Figaro un propos du producteur de Michel Mercier qui disait que elle avait un pois chiche à la place. Du cerveau. Bon, alors c'était pas gentil, mais c'était pas de moi, c'était son producteur, quelqu'un qui était censé bien la connaître. Et alors, le jour d'après la parution de cet article, j'étais à une terrasse de Saint-Tropez avec des copains. Elle était passée et elle m'avait giflé. Voilà. 2 jours plus tard, elle se réconciliait avec son producteur
Mais pas avec vous.
et pas avec moi.
Est-ce que vous avez été menacé?
J'ai été menacé. Alors, j'ai été menacé. Alors, un fou qui avec un pistolet à grenaille, m'a envoyé quelques plombs dans un abdomen qui d'ailleurs le supportait parce que j'étais en surpoids à l'époque. Ça n'a pas été très loin, le type était complètement fou et il était persuadé, il habitait au fin fond de la Provence et il était persuadé que j'avais fait poser des micros chez lui pour l'écouter. Enfin bon, il a fini à l'hôpital. Et puis alors, plus grave, j'étais la dernière victime désignée de quelqu'un qui a fait couler beaucoup d'encre et de sang et qui était...
Jacques Mesrine.
Eh oui, eh oui. Alors, je m'en rendais pas compte. Je l'avais agrafé parce qu'à l'époque, les médias, dont la responsabilité est grande dans tous les dérives de la société, mais enfin, bon, je vais pas brûler ce que j'ai adoré ni m'attaquer à des confrères. Les médias en avaient fait un maître à penser. Et je trouvais que c'était non seulement inepte, mais dangereux. Et je l'avais écrit dans ma chronique du Figaro, de François, je sais plus. Et puis, bon, ça lui avait pas plu, et il avait décidé de se venger. Ce qui fait qu'un jour, j'étais chez moi à Cannes, le téléphone sonne, et j'entends « Allô, ici De Vos ». Ah, dit « Bonjour Raymond ». Dit « Non, le commissaire De Vos ». Ah bon ? Il dit « Nous venons d'abattre M. Mesrine, et nous avons trouvé dans la poche de son veston toute une documentation vous concernant. Les plans de votre villa du Vésinet, les numéros de vos voitures, vos horaires, les chemins que vous empruntiez pour rentrer chez vous le soir. Je devais être la dernière victime. Je sais pas d'ailleurs si vraiment je m'en serais tiré parce que il était extrêmement sanguinaire de Mesrine.
Vous avez eu peur à ce moment-là?
J'ai eu une peur rétrospective, oui. Oui, oui, parce que d'abord j'ai réalisé que je m'étais aperçu de rien, que j'avais été filé, suivi sans le voir. Ensuite, que ça pouvait m'arriver avec n'importe qui et qu'à l'époque on était moins protégé, si tant est qu'on le soit vraiment aujourd'hui.
Oui, c'est un peu le revers de la médaille quand on est une personnalité, une célébrité comme ça, publique. Hein, on a les feux sur soi, on peut avoir en tout cas les feux, c'est le cas de le dire.
Oui, enfin, je veux dire que d'abord je suis toujours là pour raconter mes malheurs, ce qui atténue les malheurs, et ensuite... Bon, il y a eu ces quelques épisodes, mais je m'en suis sorti. Non, ça montre quand même que on s'expose et que on ne sait jamais à qui on va avoir affaire.
Et heureusement, vous êtes toujours là pour parler avec nous ce soir. Merci Philippe Bouvard. On vous retrouve demain soir sur France Culture.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Amandine Casadamon avec Philippe Bouvard. À voix nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Georges Thau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.